Or, chers amis, chers camarades, chers collègues, chers étudiants, c'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir ce soir dans l'inauguration donc du cycle de conférences qui, quelques années auparavant, s'appelait Histoire et mémoire des migrations en Poitou-Charentes ou lutte contre les discriminations, etc. Et on l'a changé cette année pour lui nommer le thème Atelier des chercheurs. J'insiste ce soir évidemment sur le genre féminin. Et ces conférences donc convient les étudiants du master migration internationale organisé par le laboratoire Migrinter, le master 1, le master 2, mais aussi l'école doctorale de l'université de Poitiers en sciences humaines et sociales, et bien évidemment reste ouverte à l'entière cité poitevine et à plus large et à qui veut venir. Donc soyez tous les bienvenus. C'est un très grand plaisir pour moi ce soir d'accueillir Sylvie Thénault. Alors Sylvie, merci beaucoup d'être là. C'est un plaisir parce que Sylvie est une amie chère et est une historienne absolument extraordinaire. Donc on va ensemble découvrir ses travaux. Et je suis très heureux d'ouvrir ce cycle de conférences avec les travaux de Sylvie qui portent sur l'Algérie coloniale et sur l'histoire des répressions et des violences en Algérie coloniale. Bien évidemment, il y a là un signe à l'anniversaire du cinquantenaire de l'indépendance, mais il y a aussi un signe intellectuel fort qui est l'apparition du dernier ouvrage de Sylvie qu'elle va vous présenter. Et qui traite des violences ordinaires en milieu colonial avec le cas de l'Algérie. L'intérêt de cette conférence aussi est de montrer aux étudiants de Master 1 qui depuis longtemps travaillent sur les déplacements forcés des individus, sur les réfugiés et toutes ces migrations extrêmement contraintes, qu'on peut aussi engager une réflexion sur le temps long, aussi sur le temps colonial, et je pense que ça permettra aux étudiants d'avoir une ouverture intellectuelle digne d'intérêt. Voilà. Sylvie, c'est à toi et encore mille merci.
Merci. Est-ce que je prends ce micro-là ou celui-là ? D'accord. Bien, bonsoir à tous. Merci à Yann pour cette chaleureuse présentation. Donc, sous le titre de cette conférence, je vais effectivement vous présenter en particulier un travail de longue haleine que j'ai conduit sur une pratique répressive très spécifique qui existait en Algérie tout au long de la période coloniale et qui est une pratique d'internement administratif. Alors, c'est une pratique qui a pris des formes très variables, mais qui a existé de façon continue de 1830 à 1962. Et en travaillant sur l'existence de cette pratique répressive au long cours, il apparaît évidemment que si la répression a été nécessaire sur toute la durée de la période coloniale, c'est bien qu'il y a eu des formes de résistance dans la société colonisée, y compris en dehors des périodes qui sont traditionnellement connues et retenues comme des périodes de résistance à la colonisation. En gros, on a un peu forgé un découpage de la période coloniale, en gros, en trois temps. On a un peu en tête qu'il y aurait eu une première phase de conquête, violente, évidemment, puis, à la fin, une guerre d'indépendance violente également, et entre les deux, quid des résistances, hein. Et on a pu, utiliser cette entre-deux période de violence extrême et de guerre pour construire un récit qui, parfois, chez les nostalgiques de la colonisation, prend carrément des allures d'âge d'or de la période coloniale, ou tout au moins un récit qui, à mon sens, maintenant au vu de mes travaux, minimise les formes de résistance qui existaient dans la société coloniale. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que très très rapidement, dans un premier temps, je reviendrai quand même sur les périodes de résistance collective, même si ce sont celles qui sont le mieux connues, pour tirer quand même quelques enseignements. Et dans une durée beaucoup plus longue, je reviendrai très longuement sur les formes de répression ordinaires, c'est-à-dire qui ont existé au long cours, qui existaient au quotidien dans la société coloniale et qui nous font apparaître des formes de résistance souvent peu visibles et assez difficiles finalement à connaître. Alors, Vous le savez certainement, la conquête de l'Algérie, c'est d'abord une guerre de 1830 à 1847, avec donc Abdelkader comme leader de la résistance à la conquête française. Abdelkader s'est rendu à la fin de l'année 1847. Il a ensuite été exilé, il a fini par s'installer en Syrie. Cette période est connue, je le rappelle juste pour mémoire, pour toutes les violences de l'armée française, la guerre de Razzia, bien sûr, les enfumades dans les grottes en particulier, et puis toute cette guerre de pillage et de destruction systématique. Ce qui me semble intéressant à dire ici, à souligner, c'est que les formes, les pratiques violentes de l'armée française ont déjà fait débat à l'époque. On a aujourd'hui en tête que la conquête de l'Algérie, c'est comme une évidence, hein, comme si ça avait été une évidence pour les contemporains. Ça ne l'a pas été. Et il y a eu des formes de polémiques autour des pratiques de l'armée française. Alors évidemment, un scandale à la mesure de ce que ça peut être dans les années 1840, c'est-à-dire des débats à la Chambre avec des députés qui interviennent. Et puis dans la presse de l'époque aussi, ça n'a rien à voir avec une société même comme celle du moment de la guerre d'indépendance, mais quand même. Hein. Par exemple, en 1842, il y a tout un scandale autour des exécutions sommaires qu'a commises le général Négrier à Constantine. C'était la ville qu'il avait sous son commandement. Et donc, il a procédé à 44 exécutions pendant l'année 1842, et ça provoque des contestations en France, et cela au point que le général Bugeaud, qui est le grand artisan hein, de la conquête et de la reddition d'Abdelkader, a pris la plume pour justifier les pratiques répressives françaises, notamment la guerre de Razzia qui est mise en cause, et il explique en gros que partout, en Europe aussi, la guerre porte intérêt au peuple et que lorsqu'on s'empare des grandes villes, des centres de population et de commerce, de la navigation des fleuves et de canaux, là je cite un extrait de son article, des grandes routes, et puis demain, à la première guerre, dit-il, on s'emparera des chemins de fer, on pénètre dans les capitales, et bien que toutes ces formes de guerre sur les théâtres européens, ce sont aussi des guerres qui écrase des femmes, des enfants, des vieillards, des victimes innocentes, et que donc finalement la guerre de Razzia qui est commise en Algérie n'est pas pire que les autres. Bon, je ne développe pas simplement, j'insiste sur le fait d'un débat constant autour de la colonisation, ce sont des choses qu'on a tendance un peu à oublier. Après cette guerre de conquête en 1847, l'Algérie n'est pas du tout soumise. Cette guerre de conquête est suivie par une période d'insurrection qui va jusqu'au début des années 1880. D'abord, la Kabylie n'est pas du tout soumise en 1847. C'est en 1857 seulement qu'elle l'est. Hein, donc il faut attendre 10 ans avant de soumettre la Kabylie. Et puis, il y a à partir de 1864, des tribus qui entrent en révolte dans le sud oranais, tout simplement parce que les Français cherchent à pénétrer au Sahara, et donc en fait, c'est au fur et à mesure de leur avancée qu'ils se heurtent à des résistances. La tribu des Oulettes Sidi Cher, elle reste en résistance pratiquement jusqu'au début des années 80, avec des flambées et des moments de repos. Je vous cite un extrait parce que ça me semblait, amusant, si je puis dire. Guy de Maupassant, par exemple, part pour l'Algérie en juillet 1881 et il écrit qu'il part parce qu'il veut voir l'insaisissable Bouamama, qui est le leader de l'insurrection des Oulettes Sidi Cher, qui conduit cette campagne fantastique qui a fait dire, écrire et commettre tant de sottises. Il devenait extrêmement curieux de voir l'arabe à ce moment, de tenter de comprendre son âme, ce dont ne s'inquiétaient guère les colonisateurs. Bon, j'insiste là sur le fait qu'au total, il a fallu quand même 50 ans pour soumettre l'Algérie. En général, on retient l'insurrection d'El Mokrani en 1871 comme étant la dernière. C'est vrai au sens où l'insurrection d'El Mokrani, c'est la dernière qui enflamme une large majeure partie de l'Algérie. Mais il n'empêche que les insurrections continuent et que pour les contemporains, ça n'avait rien d'évident que l'Algérie n'était plus susceptible de s'embraser. Et c'est vraiment avec la reddition des Oulettes Sidi Chrer en 1883 que les contemporains commencent à prendre conscience qu'on va peut-être sortir de cet état de guerre permanent et d'insurrection et que du coup on va pouvoir enfin commencer à construire l'Algérie française. J'insiste parce que là encore, ça nous prouve que cette Algérie française, elle n'a rien d'une évidence, elle n'était pas donnée d'emblée hein, du fait de ses résistances et ça a lourdement pesé sur la politique coloniale, bien sûr. Alors pendant toute cette période des insurrections, on voit se poursuivre des pratiques qui sont celles de la guerre de conquête. Et dans la répression des insurrections, on commence aussi à forger de nouveaux outils répressifs qui vont donner lieu ensuite à ce qu'on a appelé le régime pénal de l'indigénat sur lequel j'insisterai longuement. Alors, je vous donne un exemple, c'est l'insurrection d'El Amri en 1876. Alors, c'est une tribu, là, on est dans le sud-est de l'Algérie. Ils sont entrés en révolte et avaient mis en état d'insurrection un oasis dans lequel ils se sont repliés. Et les Français ont dû donner du canon sur l'oasis pour les déloger. Alors, la tribu des Bouazides, qui était à la tête de cette insurrection, elle est frappée d'une contribution de guerre qui vaut 12 fois le montant de leur impôt et tous leurs biens sont séquestrés. Alors, le séquestre des biens, c'est une mesure qui ensuite intègre la panoplie répressive du régime pénal de l'indigénat. C'était une confiscation de la propriété, de terres en général. Hein, donc, les Bouazides possédaient des terres de parcours collectives, puis il y avait aussi des propriétés individuelles. Alors, dans les mesures de séquestre, la terre n'était pas forcément confisquée. On pouvait confisquer la propriété, mais laisser la terre en jouissance au propriétaire et il devait payer des soultes de rachat pour racheter sa propriété, en fait. Ça a été le cas notamment pour les insurgés de 1871 sous la direction d'El Mokrani. Donc, en fait, on séquestrait la propriété de la terre et on confisquait la terre elle-même, on expulsait les gens que quand la terre était fertile et propice à l'entreprise coloniale, que quand c'était une terre que l'on pouvait imaginer de lotir et de offrir en concession, donner en concession à des colons. Mais si la terre n'était pas intéressante du point de vue agricole, finalement, le séquestre se transformait en sanctions financières. Alors, la tribu des Bouazides, en fait, on leur a séquestré, mais là, complètement enlevé l'oasis d'El Amri, dans lequel ils avaient conduit leur insurrection. Et il a été revendu à trois grands propriétaires du département de Constantine, puisqu'on est dans le sud-est. Au sein de la tribu, les autorités coloniales ont distingué des fractions particulièrement impliquées dans l'insurrection et ces fractions ont été déplacées collectivement sur le territoire de l'Algérie. C'est-à-dire qu'on leur a intimé l'ordre de quitter leur territoire et on les a contraints de résider dans diverses communes éparpillées sur l'ensemble de l'Algérie. C'était des formes d'internement collectif. Hein. Voilà. Alors, il y avait en revanche des chefs des Bouazides qui avaient combattu avec les Français, 85 d'entre eux, et eux, ils forment un nouveau douar, un nouveau village. Hein. Eux sont restés sur place et ont été autorisés à continuer de vivre où ils vivaient ordinairement. Alors, dans les insurrections, on a aussi des punitions individuelles. En général, les insurgés sont traduits devant les conseils de guerre. Donc, dans le cas de cette insurrection-là, on a neuf leaders de l'insurrection qui sont traduits devant le conseil de guerre de Constantine. Il n'y a pas eu dans cette insurrection-là de condamnation à mort, mais il y en a eu dans d'autres insurrections. Et donc, ils ont été condamnés à des peines qui existaient alors dans le code pénal français, qui étaient des peines en matière politique et notamment la peine de la déportation en Nouvelle-Calédonie. C'est connu pour les communards, mais en fait, il y a eu des insurgés algériens qui ont été envoyés en déportation en Nouvelle-Calédonie. On ne sait pas exactement combien il y en a eu, on manque encore de recherches précises à ce sujet. C'est quand même quelque chose que l'on connaît, parce qu'il y en a qui sont revenus, mais il y en a qui sont restés, y compris qui ont contribué à l'implantation de la culture du palmier en Nouvelle-Calédonie. Et leurs descendants sont identifiés, hein, se connaissent comme étant des descendants d'Algériens déportés en Nouvelle-Calédonie. Et en fait, c'est plutôt comme ça qu'on connaît cette histoire, mais on manque encore de recherches historiques. Alors, la déportation en Nouvelle-Calédonie, ce n'est pas une peine spécifique aux indigènes. C'est une peine dans le code pénal français, et je dirais un insurgé politique français de métropole comme les communards hein, pouvaient subir cette peine, et de fait certains l'ont subi. Voilà. Alors il y a en revanche d'autres formes répressives spécifiques aux indigènes, et donc il y avait l'internement sur lequel j'ai spécifiquement travaillé. Il y avait dans ces années 1870 en Corse, à Calvi précisément, un dépôt qui s'appelait le dépôt des internés arabes et qui était en fait un héritage de la guerre de conquête. Pour dire très vite les choses, pendant la guerre de conquête, il y avait des prisonniers de guerre qui ont été envoyés en France. On appelait ça les internés. Et donc, on les a internés en divers lieux du sud de la France et notamment à Calvi. Dans les années 1870, il y a donc ce dépôt de Calvi et 23 hommes des Bouazides ont été envoyés en internement à Calvi. L'internement, c'est une mesure qui est décidée par le gouverneur général et qui est sans durée limitée. Donc, les gens restent internés jusqu'à ce que le gouverneur général lève la mesure. Alors, pour le cas des Bouazides, tous ont été autorisés à revenir en Algérie en 1884. Donc, ils ont passé 1876-1884, ça fait 8 ans, en internement à Calvi. Bon, ce qui n'était pas la pire des conditions, on pourra y revenir dans la discussion si vous voulez sur ces conditions d'internement. Alors quant aux fractions dispersées dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est une mesure qui a très vite suscité des plaintes, y compris au sein de l'administration, parce que les Bouazides étaient en partie nomades et les fractions dispersées en fait avaient été éloignées sans leurs troupeaux, étaient dans un état de misère totale et en fait tombaient dans la dépendance des administrateurs des communes, des administrateurs français des communes sur lesquelles on les avait obligés à aller résider. Et donc, il y a des administrateurs eux-mêmes qui expliquent qu'il faudrait mettre fin à ces déplacements des Bouazides. Et de toute façon, il y en a beaucoup d'entre eux qui, en fait, s'échappent, reviennent à El Amri. Donc, les autorités coloniales passent leur temps à essayer de les repérer, ce qui est très difficile. Il n'y a pas d'état civil encore. On vient juste de commencer à mettre en place l'état civil. Et donc, finalement, en 1889-90, mais ça fait quand même une bonne quinzaine d'années plus tard, le gouverneur général a autorisé officiellement les fractions des Bouazides dispersées à revenir à El Amri et à se réinstaller dans leur territoire d'origine. Ce qui est important à signaler ici, c'est qu'on voit que la portée des insurrections, elle perdure au-delà de leur moment même. Parce que là, quand même, 1889-90, on est à un moment où partout dans l'historiographie en général, on nous présente l'Algérie française comme bien installée et solide. Alors, les Bouazides qui sont revenus ont contesté le séquestre et la vente de l'oasis d'El Amri jusqu'en 1922, dans le dossier de l'insurrection qui est aux archives d'Aix-en-Provence, on a encore des revendications jusqu'en 1922. Ils demandent qu'on leur permette de racheter l'oasis. Ils demandent qu'on les aide parce qu'ils sont de toute façon financièrement dans la misère. Donc ils demandent au gouverneur général des aides pour faire des offres susceptibles d'intéresser les grands propriétaires qui ont racheté l'oasis, etc. Pourquoi c'est important à souligner ? C'est que ça contredit cette idée de l'âge d'or pacifié parce qu'on voit bien que la portée de l'insurrection, elle vient là jusqu'en 1922 et vous avez d'autres travaux qui nous montrent que toute cette période d'insurrection, elles peuvent laisser des traces beaucoup plus longues. Je prends un exemple. Raphaël Branche, qui viendra ici, je crois, au mois de janvier, a démontré dans le cas d'une embuscade en 1956 à Palestro que dans cette embuscade avaient rejoué formes de rancœur relatives à la répression de l'insurrection de 1871 qui avait beaucoup touché la région. Il y a une chose là qu'il faut bien voir, c'est qu'en termes de génération, si vous prenez les années 1850-1950 sur un siècle, vous n'avez pas tant de générations que cela, et donc vous avez une mémoire familiale. Vous avez une mémoire familiale de la répression, de la confiscation des terres. Sans parler d'insurrection, il y a un autre historien qui a travaillé sur ces questions. Il a travaillé sur mai 1945 à Guelma, donc le soulèvement de Sétif et Guelma en mai 1945. À Guelma, il y a eu la particularité suivante, c'est qu'en fait, c'est une milice d'Européens qui a participé à la répression et qui a tué des centaines d'Algériens dans la répression de l'insurrection de 1945. Et Jean-Pierre Peyrouleau a démontré que parmi les acteurs engagés dans le nationalisme algérien à Guelma d'un côté et parmi les acteurs européens qui étaient dans la milice de l'autre, on avait simplement les arrière-petits-enfants des acteurs du moment de la colonisation et de l'installation du centre de Guelma. Et donc on avait en présence des arrière-petits-enfants de ceux qui d'un côté avaient eu leurs terres spoliées et de l'autre avaient récupéré les terres et s'étaient installés là. Donc ça aussi, hein, c'est un élément important qui permet de relativiser cette idée que finalement, une fois que les insurrections sont closes, on est dans une situation pacifiée et que finalement l'ordre colonial règne. Alors, jusqu'en 1945, on a en gros deux insurrections, mais qui n'ont pas du tout la même ampleur que celles des années 1850-1880. Il y a une insurrection à Marguerite en 1901, de faible ampleur, mais qui a un large écho, tout simplement parce qu'elle a suscité la peur dans la population européenne d'Algérie et dans les autorités coloniales. Puis il y en a une en 1916 dans l'Aurès, dans le contexte de la levée des hommes pour la Première Guerre mondiale. Mais en dehors de ces deux insurrections, c'est vrai qu'entre 1880 et 1945, on a une Algérie sans mouvement de résistance collective et que l'on pourrait penser soumise. Alors, j'en viens là à mon deuxième point qui sera beaucoup plus développé et à ce fameux régime pénal de l'indigénat. Alors, donc je vous le disais, c'est en travaillant sur l'internement que j'en suis venue à l'idée de proposer quand même une révision de cette chronologie et une révision de l'idée d'une période pendant laquelle finalement l'ordre a régné et l'Algérie était soumise et les autorités coloniales étaient sereines. Alors, le régime pénal de l'indigénat, qu'est-ce que c'est ? C'est un ensemble de mesures répressives qui ne pouvaient être décidées qu'à l'encontre des sujets coloniaux. Dans le cas de l'Algérie, c'est un régime qui a été très très mal organisé juridiquement, c'est-à-dire qu'il y a des pratiques qui existaient sans qu'il y ait eu à un moment donné un décret ou une loi ou une ordonnance pour légaliser la pratique. Si je prends le cas de l'internement que j'ai étudié longuement, la pratique trouve son origine, je vous l'ai dit, dans la façon dont les militaires français pendant la guerre de conquête traitaient leurs prisonniers. Ce traitement des prisonniers de guerre s'est déplacé sur les insurgés et puis à la fin de l'ère des insurrections, on a continué à pratiquer l'internement, cette fois-ci contre tous ceux que l'on voyait comme des fauteurs de troubles à l'égard de l'ordre colonial. Hein. Et il n'y a jamais eu de texte qui légalise la pratique, au point qu'en 1909, il y a un député libéral, comme il y en a un certain nombre à l'Assemblée nationale française, un républicain, hein, qui explique que quand même cet internement, c'est pas possible, il faut le supprimer. Eh bien, on lui répond gentiment qu'on ne peut pas le supprimer parce qu'il n'y a pas de texte. Donc on ne peut pas prendre, lui, il essaye d'écrire une proposition de loi, on lui dit, mais monsieur, on ne peut pas, puisqu'on ne peut pas dire, nous allons abroger le décret machin ou l'ordonnance bidule, puisqu'il n'y en a pas. Voilà, donc ce qui fait partie des joyeusetés du droit, je dirais, hein, mais dans le cas de l'Algérie, donc le régime pénal de l'indigénat, il est très mal fondé légalement. Voilà, alors, quelles mesures il y avait ? L'internement administratif, je vous en ai déjà parlé. Vers 1900, il y avait trois mesures possibles. Il y avait l'envoi à Calvi, mais on arrête en 1903. Je vous expliquerai, si vous voulez, dans la discussion, on y reviendra. En tout cas, jusqu'en 1903, on peut continuer d'interner à Calvi. En 1903, on ferme le dépôt de Calvi. On pouvait assigner à résidence les individus, comme je vous l'ai expliqué dans le cas des Bouazides. Hein, on pouvait décider de déplacer un fauteur de trouble. Hein. En gros, l'administrateur de la commune fait un rapport au gouverneur général sur un tel ou un tel qui a résisté et il demande sa mise en surveillance spéciale, c'est-à-dire en fait son déplacement et son assignation à résidence sur une autre commune. Et puis, jusqu'à la Première Guerre mondiale, il y avait des pénitenciers agricoles dans lesquels les Algériens pouvaient être envoyés. Et donc, ils étaient soumis à des travaux agricoles. Pour ce que j'ai pu en voir, pas d'une excessive dureté. On ne les fait pas travailler à la construction des routes ou des chemins de fer, comme c'est le cas pour les soldats de Biribi, par exemple. Enfin, c'est quand même pas une condition non plus très enviable. Il y avait notamment un des pénitenciers qui était dans le sud de l'Algérie et dans lesquels les conditions étaient tellement dures qu'il y avait régulièrement des épidémies de typhus et même un des directeurs meurt du typhus en 1911. Bref, l'internement administratif, c'est une des mesures du régime pénal de l'indigénat. La deuxième mesure, je l'ai aussi évoquée précédemment, c'est le séquestre des biens. Le séquestre des biens continue à être pratiqué après les insurrections, par exemple dans le cas des incendies de forêt. Il y avait de très nombreux incendies de forêt en Algérie dans les années 1880-90 en particulier, en raison de l'appropriation française des terres qui, en fait, barrait la route et mettait fin de façon tout à fait arbitraire à des pratiques traditionnelles des paysans algériens. Et comme souvent dans ces cas-là, classiquement, on a des incendies de forêt et le séquestre des biens faisait partie des mesures de répression des incendies de forêt. Il y avait aussi des amendes collectives, donc des amendes infligées à une collectivité. Ça peut être un douar c'est un village, une fraction de douar, une tribu. Hein, une amende, donc non individualisée, c'est un peu l'héritage des indemnités de guerre. La Kabylie, quand elle a été soumise en 1857, par exemple, on lui inflige une contribution de guerre énorme, qui est une contribution collective. Alors, donc, l'internement, le séquestre des biens, les amendes collectives. Ce qui est le plus important quand même, c'est ce qu'on connaît souvent sous le nom de Code de l'indigénat, qui fait partie de ce vaste régime, et qui, pour le coup, est réglé par la loi. Alors, c'est pour ça que c'est l'aspect qu'on connaît un peu le mieux. Donc, dernier aspect de ce régime pénal de l'indigénat, il s'agit des pouvoirs disciplinaires. Les pouvoirs disciplinaires, c'est l'autorisation pour les administrateurs de communes mixtes, dans lesquelles vivent la majorité des Algériens, de leur infliger des jours de prison ou des amendes sans aucune procédure judiciaire. Donc, les administrateurs de communes mixtes pouvaient réprimer toute une série de faits. Les administrateurs de communes mixtes, donc, ont vu ce pouvoir légalisé par une loi en 1881. Et dans toutes les mesures du régime pénal de l'indigénat en Algérie, c'est la seule, donc, qui est clairement légale. Ce qui est intéressant, c'est que la loi de 1881, bien sûr, elle a été discutée au Parlement, qu'il y a eu des discussions sur la légitimité mettre en place une répression qui ne soit pas judiciaire, hein, parce qu'il n'y a pas d'instruction, il n'y a pas de juge, il n'y a pas d'avocat, il n'y a rien du tout. C'est l'administrateur qui constate les faits et qui inflige une amende ou des jours de prison. Donc, des discussions. Alors, les arguments, alors d'un côté, les défenseurs de la légalité républicaine, et pour qui ça voulait un peu dire quelque chose, expliquent que quand même, on ne peut pas tolérer sur les territoires de la République des formes de répression aussi peu respectueuses des procédures et des grands principes du droit. En face, les arguments de ceux qui sont pour les pouvoirs disciplinaires, c'est qu'on a affaire à une société qui est dans un tel état que, de toute façon, la répression judiciaire ne peut pas s'exercer. En gros, il n'y a pas assez de tribunaux, il n'y a pas assez de juges, et puis, de toute façon, les sujets coloniaux, ils ne veulent pas avoir affaire à la justice française. Donc, quand il y a une affaire, personne ne veut témoigner et on ne peut jamais punir les coupables. Donc on est obligé d'avoir des formes de répression qui ne passent pas par la justice et donc forcément qui sont arbitraires. Alors avec ce débat-là, la transaction qui a été trouvée, c'est que la loi qui accordait les pouvoirs disciplinaires aux administrateurs, elle n'est votée que pour 7 ans. Et l'idée, c'était que comme ça, le Parlement aurait un contrôle sur l'usage de ses pouvoirs. Il devait y avoir des rapports rendus tous les ans. Et qu'on verrait bien comment l'Algérie allait évoluer, et peut-être qu'un jour on arriverait à un stade de civilisation et de société qui permettrait de se passer de cette forme répressive. Alors, donc cette loi, elle a été votée avec des renouvellements. Donc la première fois, c'était pour 7 ans, donc 80-1888. Ensuite, pour 2 ans, on a de nouveau un renouvellement en 1897, etc., etc., jusqu'en 1927. Les pouvoirs disciplinaires des administrateurs, ça dure dans la loi de 1881 à 1927. Alors, je vous ai mis ici, j'en viens enfin à ce que je vous ai affiché, la liste des infractions punissables par les pouvoirs disciplinaires, et vous allez voir qu'elle nous révèle bien l'existence de formes de résistance que les administrateurs voulaient punir. Bon, premièrement, vous avez les propos tenus en public contre la France et son gouvernement. Alors ça, j'en ai trouvé aussi dans des dossiers d'internement. C'est assez classique. Il y a beaucoup de rumeurs. C'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de rumeurs dans la société décolonisée d'Algérie. Et puis, ils regardent toujours du côté de l'Empire ottoman. L'Empire ottoman, pour eux, ce n'est pas l'homme malade. C'est peut-être la possibilité de sortir de la tutelle française et de revenir dans la communauté de cet empire musulman. Au moins, on sera dans l'empire musulman et plus sous la tutelle, sous une tutelle chrétienne dépersonnalisante. Donc, il y a beaucoup de rumeurs. Par exemple, en 1897, il y a une victoire de l'Empire ottoman sur les Grecs. Il y a une vague de rumeurs en Algérie sur le fait que les Ottomans vont venir chasser les Français d'Algérie. Et les administrateurs punissent ceux qu'ils peuvent identifier comme étant des colporteurs de ces rumeurs. On voit aussi à travers la répression des propos la crainte des autorités coloniales. Je vous ai dit qu'il y avait une petite insurrection en 1901 à Marguerite. Eh bien, après, il y a toute une vague de répression de rumeurs. Parce qu'on ne veut pas que l'insurrection se propage. Et donc ceux qui colportent le fait qu'il y a eu une insurrection à Marguerite, que les Algériens pourraient se soulever, qu'ils ont gagné, ou je ne sais quel propos de nature à essayer d'encourager un soulèvement, sont punis. Voilà. Vous avez en deux, je ne vais pas les passer en revue parce qu'il y en a 26, le refus ou l'inexécution des services de patrouille ou de garde. Donc il y avait dans les communes voilà, des services. C'est le même type de choses, le 3. Hein. Là, ce sont des formes de réquisition. Le refus de fournir contre remboursement immédiat au prix du tarif fixé par le préfet, les agents auxiliaires, les moyens de transport, les vivres, l'eau potable, etc. Alors, la 5, elle est importante, c'est l'inobservation des décisions administratives portant attribution des terres collectives de culture. Ça, c'est le cas où les paysans ne respectaient pas les décisions françaises en matière d'attribution des terres et notamment continuaient à aller tout simplement cultiver ou utiliser pour le bétail des terres que les Français avaient décidées comme ne leur appartenant plus et avaient été versées au domaine. Voilà. Le 6, c'est le majeur, le retard prolongé et non justifié dans le paiement des impôts. Les soultes de rachat du séquestre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand on a laissé la jouissance de la terre mais qu'il faut payer pour retrouver la propriété, les amendes collectives, etc. Alors, je vous ai mis ensuite, alors je vais Je vous les passe rapidement. Le 10 aussi, il est important. Asile donné sans en aviser immédiatement le chef du douar, le chef du village, à des vagabonds ainsi qu'à tout étranger à la commune mixte non porteur d'un permis régulier. Ça, c'est très important parce que dans les années 1890, il y a une vague de banditisme rural en Algérie. Et en fait, on utilise cette infraction pour punir les gens qui ont caché les bandits ou qui les ont ravitaillés, hébergés. On considère qu'ils ont donné asile à un étranger à la commune qui n'avait pas de permis. Le contrôle de la circulation est très important. Vous avez, c'est le 13, le défaut de ne pas circuler avec un passeport, un permis de voyage, une carte de sûreté ou un livret régulièrement visé lorsqu'il se rend dans un arrondissement autre que son domicile. Le 14 aussi, la négligence de faire viser son permis de voyage. Voilà. Et puis, vous avez le 16 qui est aussi majoritairement employé, qui est les actes de désordre sur les marchés et dans les lieux publics, n'offrant pas un caractère de gravité suffisant pour constituer un délit. Donc, en gros, des désordres que l'on ne peut pas qualifier d'après le code pénal, eh bien, on utilise cet article 16, enfin, cette infraction numéro 16, et l'administrateur punit en infligeant une amende ou une peine de prison. Alors, il y avait un maximum fixé dans les textes. Ça pouvait aller, la prison, c'était jusqu'à 15 jours et l'amende jusqu'à 15 francs. À partir de 1897, lorsqu'on a renouvelé la loi en 1897, l'Assemblée a fait droit à une revendication des colons qui était la possibilité de convertir ces jours de prison et ces amendes en journées de travail. Et donc, je vous montre le tableau suivant. Alors ça, c'est la suite. Voilà. Là, vous avez le nombre de punitions infligées par usage de ces pouvoirs disciplinaires, avec la conversion en journée de travail pour la période 1890-1910. Donc première colonne, le nombre de punitions. Deuxième colonne, le nombre de celles qui ont été converties en journée de travail. Vous avez le taux de conversion, dont vous voyez qu'il augmente au fur et à mesure du temps. Et au total, on a près de 600 000 journées de travail qui ont été infligées à des Algériens dans les communes mixtes. Alors ces journées de travail, on ne sait pas vraiment en quoi elle consistait, c'est assez difficile. A priori, on peut supposer que c'était des travaux utiles à la commune, donc des travaux d'adduction d'eau, ça pouvait être aider à lutter contre une invasion de sauterelles, ça pouvait être du travail sur les chemins vicinaux, du débroussaillage, ce genre de choses. Mais en dehors de l'article de loi qui donne la liste des travaux autorisés, on n'a pas tellement d'éléments pour savoir quels travaux ont effectué les Algériens qui ont fait quand même ces pas loin de 600 000 journées de travail en 12 ans. Alors, évidemment, il ne faut pas non plus se laisser aller au vertige des chiffres. Et dans ces débats sur l'indigénat, on objecte souvent le fait que ces chiffres représentent peu au regard d'une population qui se compte en millions, et que finalement, une vingtaine de milliers de punitions par an, quand on a 4 millions d'habitants, c'est un poids qui pèse peu, en réalité, sur la société décolonisée d'Algérie. Je ne suis pas d'accord avec cette interprétation, parce qu'il faut bien voir que ça fonctionnait comme une épée de Damoclès. Et quand on se place à l'échelle d'une commune, l'administrateur est celui qui a le pouvoir d'infliger des amendes ou des jours de prison, puis de les convertir en journée de travail. Et c'est donc un poids qui pèse, même lorsque ce n'est pas utilisé. Je l'ai vu dans des dossiers d'internement, parce que je vous le disais tout à l'heure, l'administrateur, quand il a repéré ou lorsqu'il pense avoir à punir quelqu'un qu'il perçoit comme un fauteur de troubles, il fait un dossier qui arrive au gouvernement général, et puis le gouverneur général décide ou pas d'un internement. Dans l'immense majorité des cas, il en décide. Mais on voit bien dans les dossiers que le fait de constituer un dossier, ça peut être dans un premier temps une menace pour essayer de faire rentrer le turbulent dans le rang. Hein. Donc, il faut, voilà, le poids des chiffres, il est intéressant, mais il ne nous dit pas vraiment ce qui pesait. La menace d'être soumis à ces mesures pèse au quotidien sur les sujets coloniaux, surtout que il y a un arbitraire dans la décision. Je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas une instruction. Hein, il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas de juge. Et alors, le rôle, du coup, de ce qu'on appelait les adjoints indigènes était absolument fondamental. Parce qu'une commune mixte d'Algérie, c'était un territoire qui faisait des centaines de kilomètres carrés. Vous pouviez avoir des milliers, si ce n'est pas 10, 15 000 habitants, avec un administrateur. Et donc, en réalité, c'était ce qu'on appelait les adjoints indigènes, c'est-à-dire les caïds, les chers, qui, en fait, relayaient l'autorité de l'administrateur. C'était eux qui avaient le pouvoir entre leurs mains. Parce que c'était eux qui signalaient à l'administrateur les faits qui devait être puni, hein, et l'administrateur se reposait sur les dires des adjoints indigènes. Il y a énormément d'affaires qui mettent en cause la probité des adjoints indigènes. D'ailleurs, ça peut être une position enviable parce que les adjoints indigènes étaient bien connus pour être corrompus et souvent s'enrichissaient, mais en même temps, l'administration coloniale n'hésitait pas à licencier ou faire démissionner ceux qui, en fait, allant trop loin dans la corruption sur les sujets coloniaux, finalement, devenaient eux-mêmes des fauteurs de troubles parce qu'il y avait des résistances. Hein, voilà. Donc, dans les dossiers d'internement, par exemple, on trouve des cas, des affaires sombres dans lesquelles sont mêlés des adjoints indigènes. Bon, mais donc, pour en revenir à la nuance sur les chiffres, hein, moi, je trouve que 600 000 journées de travail, on peut discuter, c'est beaucoup. Voilà. C'est peut-être pas beaucoup quand on a 4 millions d'habitants, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ça pouvait frapper sans moyen de défense. C'est surtout ça qui est important. Voilà. Alors, pour un petit peu illustrer tout ça, j'avais prévu de vous relater un peu longuement, je vais le faire très vite, un cas à l'échelle d'une commune qui permet de voir comment tout cela pèse sur les populations. C'est un cas que j'ai développé donc dans mon livre sur l'internement. Donc ça se passe dans une commune qui s'appelle Oued-Marsa en 1900. Au début, il y a un caïd d'Indouar qui est assassiné. Visiblement, tous les Algériens sont contents de l'assassinat du caïd, qui en fait avait été nommé par l'administration coloniale et n'était pas du tout de la région. Le préfet et le sous-préfet et l'administrateur de la commune sont absolument sur les dents, vous me pardonnerez l'expression, veulent absolument trouver les assassins. Il y a une instruction en justice qui est ouverte, personne ne veut témoigner, évidemment, donc le juge rend un non-lieu. Alors l'administrateur dit que finalement la rumeur publique accuse 4 hommes, donc il demande l'internement. Donc les 4 hommes sont internés. Vous voyez que c'est intéressant quand on est dans un régime de droit, parce qu'on a une mesure d'internement administratif qui vient compenser un non-lieu judiciaire. Bon. Et puis, il y a quand même, l'affaire est quand même pas résolue. Alors, l'administrateur continue de faire des recherches. Il échafaude des hypothèses qui ne tiennent pas plus les unes que les autres. Il finit par obtenir d'autres internements. Et puis un jour, quand même, le gouverneur général finit par lui dire qu'il veut bien interner les nouveaux hommes pour lesquels il le demande, mais qu'il faudrait peut-être quand même qu'il arrive à trouver l'assassin pour qu'on puisse en finir une bonne fois pour toutes. Il faut dire que dans la fébrilité des autorités coloniales dans cette commune, il y avait un bandit qui, je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de bandits ruraux, qui hantait, si je puis dire, le territoire de la commune. Et alors, les autorités coloniales sont absolument persuadées que le bandit a participé à l'assassinat du caïd, et qu'en fait, il a servi d'homme de main aux villageois qui ne voulaient plus du caïd, qu'en fait, ils l'ont payé pour que le bandit aille tuer le caïd. Alors, donc, tout se mélange. Hein, il y a à la fois trouver les assassins du caïd et les punir, et puis mettre fin aux agissements de ce bandit qui, en gros, les nargue, parce qu'ils savent après coup qu'il est passé à tel ou tel endroit, mais tout le monde se tait et ils n'arrivent pas à l'arrêter. Alors, finalement, on arrive on arrive à la situation qu'en 1903, les internés sont libérés. Pourquoi ? Parce que le bandit est arrêté et qu'on se dit qu'on va enfin avoir la vérité sur cette affaire. Alors là, vous avez vu dans ce que je vous ai raconté pour l'instant, la combinaison du régime pénal de l'indigénat. Hein, on utilise l'internement contre ceux qu'on suspecte d'avoir trempé dans l'assassinat. On a utilisé l'article 10 dont je vous avais parlé tout à l'heure, l'asile donné sans en aviser immédiatement pour punir des villageois dont on savait bien qu'ils avaient aidé le bandit Chaïb à se cacher. Et puis l'administrateur a aussi eu recours à des mesures situées en dehors de toute légalité. Il a fait consigner au bordge de la commune des membres de la famille du bandit et il a contraint des membres de sa famille à une corvée de lutte contre une invasion de sauterelles. Tout cela sans aucune base légale. Simplement, il leur a imposé de par son autorité. Et pourquoi on le sait ? Parce que quand même, dans le lot de ses parents un peu élargis de la famille du bandit, il y en a qui se sont plaints au gouvernement général, hein, qui ont expliqué que l'administrateur les avait retenus un mois au Borge, les avait contraints de participer à l'invasion de sauterelles, à la lutte contre l'invasion de sauterelles. Voilà, alors, là c'est dit très rapidement, j'aurais aimé avoir le temps d'en dire plus, mais ce que je voulais dire avec cet exemple, c'était vous montrer comment, au-delà du quantitatif, les pouvoirs de l'administrateur avec le relais des adjoints indigènes pèsent sur les populations villageoises. Alors, ces formes de résistance, alors, vous avez eu donc la liste des infractions. Là, j'ai préparé un tableau, mais bon, malheureusement, il est coupé en deux, sur les motifs d'internement pour vous donner un peu une autre vision. Hein, de ces actes réprimés. Alors, les actes délictueux ou criminels, c'était les bandits ruraux dont je vous ai parlé. C'était des gens qui commettaient des vols de bétail ou des incendies de récolte, par exemple. L'insécurité ou la marginalité en zone urbaine, ça, ce sont des actes qui concernaient plus spécifiquement Alger. Il s'agissait, en fait, de se débarrasser de toute une petite plèbe urbaine dans laquelle vous aviez des vagabonds, des voleurs à la tire, etc. On les expulsait de la ville, on les internait en dehors. Plus intéressant, le troisième motif, pèlerinage contrevenant à la réglementation. C'est quand même 14% des motifs. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que les autorités coloniales, en fait, elles étaient très soucieuses du contrôle du pèlerinage parce qu'elles pensaient que les Algériens allaient se ressourcer à la Mecque au contact d'autres musulmans du globe et qu'ils allaient revenir fanatisés, entre guillemets, si on reprend leur vocabulaire. Et donc, le pèlerinage était soumis à une réglementation très stricte et les gens qui partaient sans avoir respecté la réglementation risquaient un internement à leur retour. C'était la même chose, il y avait des années où le pèlerinage était interdit. Et donc ceux qui partaient les années d'interdiction risquaient l'internement à leur retour. Alors j'insiste sur cet exemple parce que ça me semble important aussi de dire que les résistances, ce ne sont pas seulement les actes qui sont commis dans une intention de résistance de la part de leurs auteurs, mais ce sont aussi des actes que les autorités coloniales perçoivent comme des actes de résistance à leur encontre. Le brave homme ou la brave femme qui va faire son pèlerinage à la Mecque, c'est pas forcément pour revenir et répandre un discours anticolonial. C'est une pratique religieuse, mais pour les Français, c'est une pratique dangereuse. Donc, réprimé. Hein. Alors, ça, c'est très important parce que cette catégorie de résistance, je l'ai utilisée jusqu'à maintenant avec beaucoup de facilité, mais quand on regarde de très près les dossiers de répression, on s'aperçoit que l'intention des auteurs n'est pas toujours manifeste. Et elle n'est pas toujours, je dirais même, j'irai plus loin, c'est pas toujours évident de dire dans quelle mesure elle est anticoloniale. Un paysan, par exemple, qui s'obstine à aller labourer une parcelle de terre alors que les Français ont décidé qu'elle ne lui appartenait plus. Il est simplement en résistance contre la confiscation de sa terre. Est-ce qu'il est en résistance contre les Français ? Ça n'a rien d'évident. Il se trouve que ce sont les Français qui lui ont confisqué. Mais si ça avait été une administration algérienne, pour dire vite, il aurait peut-être été de la même façon en résistance. Hein. Voilà, alors je vous dis ça parce que j'avais vu le cas dans un dossier d'internement d'un monsieur qui, pendant des années, parce qu'on lui avait retiré sa terre, mais elle n'avait pas été donnée à un colon. Alors lui, tous les ans, il continuait. Il allait labourer, etc. Et tous les ans, l'administrateur le punissait, donc avec les pouvoirs disciplinaires. Et puis quand il a vu que ça ne servait à rien, que le monsieur récidivait, ben à la fin, il a demandé un internement et le brave monsieur, il est allé au pénitencier. Parce qu'il continuait, il s'obstinait à labourer sa terre et qu'il ne respectait pas hein, le fait qu'elle lui avait été enlevée. Alors ça, dans la liste des infractions... C'est là, je vous l'avais lu tout à l'heure, elle devait être au début, c'est la 5. Ah non, non, parce que ce n'est pas les terres collectives de culture. Alors ça doit être la 4, l'inexécution des ordonnées en vue de l'application des lois relatives, il manque le A, à l'établissement et la conservation de la propriété. Hein, il n'a pas respecté la réglementation en matière de propriété. Alors, toutes ces formes de résistance-là, vous remarquerez qu'elles sont très inscrites dans un contexte rural. Et René Galissot, qui s'y est intéressé, qui est un grand historien de l'Algérie, un historien du mouvement ouvrier, il en parle en disant que ce sont des formes de résistance inscrites dans les formes mêmes de l'organisation sociale. C'est-à-dire que ce sont des formes de résistance qui, en fait, sont le fait d'individus résistants seuls, là où ils sont dans la société, à bas bruit et pas collectivement. Hein. Donc évidemment, c'est peu visible, c'est très difficile de les connaître pour les historiens, mais du coup, les archives de la répression sont intéressantes, puisque dès lors qu'on réprime, eh bien, nous, ça nous permet de les connaître. Alors ces formes de résistance-là, et ce sera ma conclusion, elles diminuent après la Première Guerre mondiale. Je vous ai dit tout à l'heure que les pouvoirs disciplinaires des administrateurs prenaient fin en 1927. C'est-à-dire qu'en fait, la loi de 1881, on l'a renouvelée avec cette liste. Alors la liste, elle était modifiée suivant les débats parlementaires. On pouvait ajouter une infraction ou en enlever une. Hein. Bon, mais en gros, le cœur est autour de la fiscalité, de la propriété de la terre, des désordres sur les marchés. Voilà. Pourquoi une diminution après la Première Guerre mondiale ? Alors, diminution, d'abord, je vous la quantifie. Vous voyez là, dans les années 1898-1910, on est à une vingtaine de milliers de punitions par an. C'est totalement spectaculaire. En 1921, on ne compte plus que 1325 punitions par les pouvoirs disciplinaires. 2196 en 1922, 2021 en 1923, etc. En gros, on est à 1000-2000 punitions par an. Pour quelles raisons ? Il y a trois facteurs qui expliquent... Trois facteurs qui expliquent cette évolution. D'abord, le fait que, à la fin de la Première Guerre mondiale, on a voté une loi qui a réformé le statut des Algériens dans l'objectif de les récompenser pour leur participation à l'effort de guerre. Vous avez pratiquement 300 000 Algériens qui ont été amenés en France et qui ont participé à l'effort de guerre français, soit dans les troupes, dans l'armée française, soit comme travailleurs. Hein, bon. Donc, on est au moment de la récompense. Et en 1919, on a voté une loi qui a amélioré le statut d'environ 400 000 Algériens. Ce sont des Algériens qu'on a dotés d'un droit de vote à toutes les élections locales et qu'on a exemptés des pouvoirs disciplinaires. Donc, vous avez 400 000 hommes majeurs qui échappent désormais au pouvoir disciplinaire. Alors, ça peut expliquer la diminution d'une simple façon mathématique, mais pas seulement. En fait, ce que disent les administrateurs, c'est que maintenant que dans leur commune, une partie de leurs habitants sont exemptés des pouvoirs disciplinaires, ils ne peuvent plus les utiliser, parce que la pratique est totalement délégitimée. Et que, d'autant plus que, souvent dans les affaires, ce sont des affaires qui impliquent plusieurs individus, et si jamais il y a un exempté dans l'eau, ils ne peuvent pas punir. Alors c'est le cas notamment, parce qu'ils se plaignent évidemment, ils ne sont pas du tout contents, ils sont aussi exemptés des amendes collectives. Et alors là, ils expliquent qu'ils ne peuvent plus infliger d'amendes collectives, parce que dans une collectivité, il y a toujours au moins un exempté. Et donc, voilà. Donc il y a une tombée en désuétude, pas seulement parce que la loi a exempté 400 000 individus des pouvoirs disciplinaires, mais aussi parce que le caractère massif de cette exemption a contrarié de fait la continuité de l'usage des pouvoirs disciplinaires et que les administrateurs, concrètement, ont beaucoup de mal à les utiliser. La deuxième raison, deuxième facteur de cette chute vertigineuse après la Première Guerre mondiale, c'est parce que les causes disparaissent en partie. La grande période de la dépossession foncière, c'est les années 1870-1900-1910. Après 1920, on voit s'amorcer un mouvement de retour à la propriété des Algériens. Alors, il ne faut pas imaginer qu'ils rachètent les terres. Hein. Le rapport reste globalement terriblement inégalitaire. Mais il se trouve que, grâce notamment aux revenus générés par ceux qui sont partis à la guerre, soit comme travailleurs, soit ceux qui ont été enrôlés dans les troupes, il y a dans les familles algériennes des arrivées monétaires qui permettent des rachats de terres. Hein, ce n'est pas un mouvement massif, hein, j'insiste bien, hein, mais évidemment les contemporains, que ce soit les autorités coloniales ou les colons européens, voyaient une menace hein, d'une reconquête foncière des Algériens. Il ne faut pas exagérer. Mais en tout cas, on n'est plus dans la période de la dépossession. Donc forcément, les infractions, elles tombent. Hein, on n'a plus besoin de punir puisqu'on n'est plus en train de confisquer des terres et de devoir punir ceux qui continuent à aller labourer, faire paître ou alors ceux qui vont incendier les terres du colon parce que c'était les leurs quelques années auparavant. Et puis surtout, il y a un élément très important, c'est que la loi de 1919 a considérablement allégé la fiscalité et les infractions à la fiscalité était un des motifs majeurs de punition par les pouvoirs disciplinaires. Pourquoi elle les a allégés ? C'est qu'en fait, jusqu'en 1919, les Algériens, ils étaient doublement soumis à l'impôt. Ils payaient les impôts français, entre guillemets, mais ils payaient aussi ce qu'on appelait les impôts arabes. Et en fait, les autorités françaises, dans un premier temps, dans les années 1830-1840, avant d'installer la fiscalité française, ils avaient reconduit les impôts que les Turcs percevaient. Et donc ça s'appelait les impôts arabes. Et puis après, progressivement, ils ont mis en place la fiscalité française. Mais les impôts arabes étaient toujours perçus. Donc le poids de la fiscalité était énorme sur les communautés villageoises. Et donc en 1919, on supprime les impôts arabes. Donc on arrive enfin à l'égalité devant l'impôt des sujets coloniaux et des citoyens français. Et du coup, évidemment, puisque le poids de l'impôt est diminué, les infractions au paiement le sont aussi. Hein. Les gens peuvent payer plus facilement qu'avant cette loi. Et puis, troisièmement, certainement à mon sens le plus important, c'est que désormais, les résistances, elles sont en train de muter. C'est dans l'entre-deux-guerres qu'on voit s'organiser en Algérie des mouvements politiques revendicatifs. L'Étoile nord-africaine, la première organisation indépendantiste, elle est fondée en France en 1926, elle est dissoute, elle se reconstitue sous le nom du Parti du peuple algérien. En tout cas, hein, le nationalisme commence à se développer en Algérie. Alors, d'abord dans l'immigration, mais quand même, dans les années 30, il se développe en Algérie. La menace, donc, elle vient de ces nationalistes qui revendiquent l'indépendance. Elle vient aussi des oulémas, qui sont donc, c'est un mouvement de réformistes religieux qui insistent sur l'identité culturelle des Algériens, qui ont popularisé un slogan disant, je ne suis pas sûre de le citer dans le bon ordre de tête, mais en gros, l'islam est ma religion, l'arabe est ma langue et l'Algérie est ma patrie. Hein, donc les oulémas, c'est en fait une constellation d'associations religieuses qui animent des écoles libres, qui défend les prêches libres dans les mosquées, parce qu'il y avait un clergé officiel contrôlé par les autorités coloniales, hein, pour éviter que les prêches dans les mosquées prennent des accents anticoloniaux. En tout cas, eux font des prêches dans des mosquées libres. Ce mouvement, et puis vous avez aussi le mouvement revendicatif plus modéré de ceux qu'on appelle les assimilationnistes, qui revendiquent tout simplement l'égalité des droits, éventuellement dans un cadre français, mais au moins l'égalité des droits. En tout cas, à partir de l'entre-deux-guerres, la menace, elle ne vient plus du milieu rural et de ces paysans résistant tant bien que mal à une dépossession foncière et à un impôt qui les écrase. La menace, elle vient de ces organisations politiques ou de ces associations structurées. Et donc le système répressif, il mute à ce moment-là. Ça ne sert à rien, les infractions du régime pénal de l'indigénat, elles ne servent strictement à rien contre eux. L'internement administratif ne sert à rien, ils essayent. Mais en fait, ils s'aperçoivent que quand ils internent un leader et qu'ils le déplacent, en fait, ils sèment un germe. Mais c'est évident en matière de répression politique, ce n'est pas spécifique à l'Algérie ni à la situation coloniale. Alors du coup, le nombre d'internements chute aussi. Hein. L'internement, ce n'était pas une mesure massive. Il y avait en gros quelques centaines de mesures par an. Dans les années 30, il y en a 10 ou 20. Bon. Quant au banditisme rural, qui était aussi un motif majeur d'inquiétude, il existe toujours, mais on ne s'en inquiète plus. C'est traité comme du fait divers. C'est plus perçu comme une menace pour la colonisation. Et donc, les organisations politiques qui s'organisent, qui se créent, eh bien, elles ont affaire à des moyens répressifs, j'allais dire plus ordinaires en matière politique. On interdit leur presse, on interdit leurs réunions. Par exemple, en 1933, il y a une circulaire du secrétaire général de la préfecture d'Alger qui interdit aux oulémas de prendre la parole dans les mosquées. Hein. Donc on a toute une série de mesures. Vous avez régulièrement des procès. J'y reviendrai pour les nationalistes. Et alors, le grand décret répressif, c'est 1935, le décret Régnier du ministre de l'Intérieur, qui prévoyait jusqu'à 2 ans de prison pour toute provocation à des désordres ou à des manifestations contre la souveraineté française ou à la résistance contre l'application des lois, règlements ou ordres de l'autorité. Hein ? Et donc c'est ce décret Régnier qui a permis ensuite d'arrêter et de condamner notamment des dirigeants nationalistes algériens. Je vous donne un exemple. Je vous ai parlé de l'étoile nord-africaine devenue partie du peuple algérien. Son leader, Messali Hadj, il est condamné d'abord en métropole. Messali Hadj, c'était quelqu'un qui vivait en France. Hein. Donc, il est condamné en métropole en 1934-1935. En 1937, il est arrêté en Algérie. Il est traduit en justice en vertu du décret Régnier. Et il est condamné à 2 ans de prison avec pratiquement tous les autres dirigeants du PPA. Il est libéré en août 1939, mais en septembre, quand il y a la dissolution du PC en France, en fait, c'est un décret assez général et le Parti du peuple algérien est dissous aussi en vertu de ce décret. Alors, il est de nouveau arrêté, il est transféré à Agen, il est condamné en 1941, renvoyé en détention en Algérie. Bref, Messali Hadj, il est resté soit en détention, soit en résidence surveillée, mais alors pour le coup, lui, bien surveillé, et puis y compris en dehors d'Algérie, parce qu'à la fin de la guerre, il est assigné à résidence en dehors d'Algérie, jusqu'en 1946. De 37 à 46, il est enfermé. Hein. Et d'ailleurs, Mohamed Harbi, un grand historien algérien, propose de l'appeler l'enfermé, comme Auguste Blanqui chez les Français. Voilà ce que je voulais un peu vous dire. Et puis donc maintenant, si vous voulez des précisions ou des questions, nous avons le temps, je crois.
Écoute, merci Sylvie, je me lève plus. Hein. Donc non, merci mille fois à toi. Écoute, j'ai des petites questions à te poser. De précision, notamment concernant le pèlerinage. Est-ce que pour toi, le pèlerinage, ça peut être assimilé à une émigration de gens qui veulent partir ? Et est-ce que pour le coup, tu pourrais rentrer aussi dans les départs d'Algérie comme résistance, par exemple, ou même peut-être à la limite les départs vers la métropole, mais on sait bien de toute façon qu'ils ont été tellement contrôlés à partir de les travaux de Geneviève, etc. Mais est-ce que finalement tu peux voir dans les formes de résistance une tentative de quitter le territoire algérien sans pour autant aller vers le territoire français? Ça, c'est la première question. Et l'autre chose qui m'intéresse, c'est le réseau. Tu dis par exemple qu'il y a des familles qui ont été contraintes à des intérêts, à des travaux, à des condamnations, etc. Mm-hmm. Tu parlais du cas de cette famille dans l'invasion de Sauterelle, etc. Qu'est-ce qu'un réseau finalement familial à une époque où l'état civil algérien n'existe pas, ou pas toujours en tout cas? Et justement, est-ce que tu arrives à le voir dans les textes, comment il se construit? Est-ce que c'est le cher qui dit lui c'est son frère ou c'est son cousin ou je ne sais quoi? Et là pour le coup tu es encore dans une démultiplication de l'arbitraire, puisque c'est que sur des oui-dire, etc. Donc bon, j'ai d'autres questions, mais voilà ce que je voulais te poser d'abord. Et si...
Merci. Je ne sais pas si on en prend plusieurs ou si...
Non, vous pouvez commencer.
Je peux répondre. Merci. Alors, non, alors, il y a eu effectivement des migrations qui valaient, d'ailleurs pas résistance, mais fuite face à la colonisation française. Alors, je n'avais pas l'intention de faire de la publicité, mais je pense que tu m'as un peu tendu une perche. J'ai récemment dirigé un gros ouvrage aux éditions La Découverte, enfin, qui paraît La Découverte à Paris et Barzac à Alger, avec trois autres co-directeurs, deux collègues algériens et un collègue français. Et donc, il y a un article sur cette question des migrations. Effectivement, il y a eu ce qu'on a appelé des fuites ou des exodes de familles qui quittaient carrément le territoire de l'Algérie pour ne pas avoir à vivre sous la tutelle française. Bon, le pèlerinage, je ne crois pas. Moi, pour les cas que j'ai vus, ce sont vraiment des gens qui partent accomplir le pèlerinage. Encore qu'il faudrait peut-être nuancer, parce que par exemple, pour l'insurrection de 1871, il y a un des leaders de l'insurrection, je ne sais plus comment, qui finit par s'installer à Djeddah. Et du coup, là, ça devient dur que les Algériens partent au pèlerinage. Et en fait, il est très surveillé, parce qu'on ne veut pas que les Algériens... on soupçonne que des Algériens puissent profiter du pèlerinage pour aller lui rendre visite. Voilà. Voilà. Donc, ces migrations, il y a effectivement eu des mouvements migratoires dont l'ampleur reste assez difficile à déterminer, mais c'était assez significatif pour que les autorités françaises s'en inquiètent et qu'elles cherchent à interdire les départs. Mais elles n'avaient aucun moyen d'interdire à une famille qui décidait de quitter l'Algérie pour aller s'installer ailleurs de le faire. Alors, les lieux privilégiés de ces migrants, c'était la Syrie, certainement dans la continuité d'Abdelkader, mais aussi, par exemple, la Tunisie. C'est aussi difficile à repérer parce qu'en fait, les familles s'installaient et se fondaient dans la masse. Ensuite, sur place, on ne cherchait pas à continuer d'exister comme Algériens. Ça n'avait pas tellement de sens. On cherchait plutôt à être acquérir la nationalité ou les statuts dans les territoires où on s'était installé. Il y a un des leaders ouléma, par exemple, Tawfiq El Madani, qui est issu d'une famille algérienne qui était partie s'installer à Tunis. Et alors, lui, son cas est assez intéressant parce que la famille avait dû partir dans les années 80-90, je ne sais plus. Et lui, en fait, il a commencé à s'investir dans le mouvement revendicatif tunisien. Et les autres autorités du protectorat l'ont expulsé en Algérie. Et en Algérie, il est devenu quelqu'un de très important au sein des oulémas, parce qu'il a publié en 1931 un livre, L'histoire de l'Algérie, qui est un peu le livre qui fonde le récit national algérien, en gros. Et puis, pendant la guerre d'indépendance, il décide que les oulémas doivent rejoindre le FLN, etc., etc. Voilà. Mais non, le pèlerinage, je ne crois pas que ce soit ça. On n'est pas dans le même cadre. D'ailleurs, je me suis demandé, moi, comment ils arrivaient à les repérer et s'il n'y avait pas aussi des possibilités de transaction. J'ai vu dans les dossiers d'internés, il y en a certains qui essayent d'expliquer qu'ils ne sont pas allés à la Mecque. Ils sont partis, mais finalement, ils ne sont pas allés jusque-là. Ou bien, voilà. Pour les réseaux avec la famille, tu as mille fois raison. dans la famille de Chaïb, là, l'historien est prisonnier de la vision coloniale. À mon avis, l'administrateur était prisonnier des adjoints indigènes et nous sommes prisonniers des sources coloniales. Si je retrouve le... Voilà. Par exemple, quand je vous dis donc qu'il y avait... Alors, il fait conduire au chef-lieu l'administrateur, la mère, la sœur du bandit, une autre de ses parentes, sans mention. Et puis, les autorités coloniales disent que donc l'administrateur a aussi puni deux frères, trois neveux et un oncle maternel. Mais l'un d'eux, qui est présenté par les Français comme le neveu, quand il se plaint de ce qu'il a subi, il dit qu'il est le beau-frère de Chaïb. Voilà, donc effectivement, on est en plein malentendu, mais c'est bien pour ça que les Français ont essayé d'imposer un état civil, c'est-à-dire que non seulement les Français ne comprennent rien aux liens familiaux, mais à l'inverse, je pense que les Algériens ne comprenaient rien aux liens familiaux, c'est-à-dire être le neveu ou le beau-frère, il n'était peut-être pas plus le beau-frère que le neveu, mais c'est peut-être le mot qu'il a trouvé pour dire qui il était, et ça ne correspond pas forcément à sa situation. De toute façon, enfin, bon, voilà, c'est un sujet beaucoup plus vaste. À mon avis, sur l'état civil et la façon dont les familles ont pu être réorganisées et donc désorganisées, ça reste un sujet sur lequel on devrait travailler.
Pas d'autres questions ?
Non. Si, quelqu'un là-bas.
Merci. Je suis Félix Ouattan, invité chercheur à Migrante. La plupart des situations de répression évoquées sont relatives aux questions de sécurité, contrôle de territoire. N'y a-t-il pas eu des répressions relatives à la mise en place d'une économie moderne, à part l'impôt, bien sûr, comme ce fut le cas dans les colonies subsahariennes ? Mise en place des infrastructures modernes, développement forcé de certaines cultures de rang du genre coton chicotte. Merci.
C'est une très bonne question. Alors, pas du même ordre, parce qu'on n'a pas... On n'a pas affaire au même type de développement économique que dans les colonies d'Afrique subsaharienne. On n'a pas, par exemple, l'imposition de nouvelles cultures avec des paysans. Je vous dis ça parce que, du coup, ces questions-là, maintenant, m'intéressent de l'Algérie. Et j'avais lu notamment un article sur le Rwanda-Urundi, qui n'était pas une colonie française, mais une colonie belge. Et en fait, il y avait le même type de pouvoir pour les administrateurs. Et le motif majeur... c'était effectivement la résistance à la mise en culture de nouveaux produits que le colonisateur imposait aux populations locales. Ça, c'était, il y avait vraiment une confusion des pouvoirs entre les intérêts privés et l'administration, parce que au Rwanda-Urundi, les administrateurs qui avaient des pouvoirs disciplinaires pouvaient les utiliser pour punir le non-respect des contrats de travail pour des Africains qui travaillaient sur les plantations coloniales. C'est quand même, bon. On n'a pas du tout ce genre de choses en Algérie, certainement lié au fait qu'on n'a pas une économie de plantation. Pour ce qui est de la main-d'œuvre, c'est vrai que la dépossession foncière fait émerger la figure de journalier, mais je n'ai pas trouvé ce type de motif. En revanche, tout ce qui concerne la dépossession foncière, à mon avis, entre bien dans ce domaine de l'économie, hein, puisque la dépossession foncière est bien destinée à constituer des grandes... Enfin, à mettre en place un transfert de propriété envers les Européens, aboutissant in fine à une concentration de la propriété et au développement, bon, par exemple, de la vigne qui devient le produit majeur des exportations algériennes. Mais c'est compliqué parce qu'il me semble aussi que la fiscalité, ça rentre là-dedans aussi quand même. C'est-à-dire que... alors, franchement, je ne suis pas à l'aise parce que je ne suis pas spécialiste de l'économie, un, et deux, parce qu'on manque vraiment de travaux là-dessus. Voilà. En tout cas, il me semble que tout ce qui concerne la fiscalité, tout ce qui concerne la dépossession foncière, on est bien là dans des infractions qui rentrent dans le domaine de l'économie. J'allais ajouter quelque chose que j'ai perdu en route. Ouais, c'est pas grave, j'y reviendrai. Mais pas du même ordre. Pour le peu que je connaisse ce qui s'est passé en Afrique subsaharienne, c'est pas du tout du même ordre. Quand j'ai parlé des journées de travail, c'est pas du tout le travail forcé qu'on rencontre en Afrique, hein, où vous avez des gens qui sont morts sur des chantiers de chemin de fer, quand même, par exemple. Hein. C'est quand même pas du même ordre. Là, c'est des chantiers à l'échelle des communes.
Oui, moi j'aurais une question qui, dans ma grande naïveté, c'est que quand vous présentez de manière tout à fait intéressante ce régime général de l'indigénat avec l'ensemble de ses mesures et tous ses articles finalement, moi je me demandais, certains articles comme ça, je me demandais quelles étaient ses sources, quelles sources d'inspiration. Ce code n'a pas ce code, entre guillemets,
oui, tout à fait,
n'a pas été créé ex nihilo, notamment mes vagues souvenirs, certains domaines juridiques, notamment troubles à l'ordre public, non-paiement de l'impôt, etc., particulièrement non-paiement de l'impôt, qui est quand même, depuis le Moyen-Âge, susceptible d'être puni et puni lourdement. Donc, quelles sont un peu ces sources? Alors, qu'est-ce qui a été pris dans le code, finalement, un certain nombre de registres juridiques français, notamment dans le cadre de cette colonisation, et puis comment ça a été adapté? Enfin, voilà.
Alors, c'est une construction de longue haleine, hein, puisque, en fait, à l'origine des pouvoirs disciplinaires, il y a les pouvoirs répressifs qu'avaient les chefs de bureau arabes. Donc, pour reconstituer le processus, au fur et à mesure de la guerre de conquête, l'armée française installait des postes à chaque fois qu'un territoire était soumis. Donc, ça a donné naissance à des bureaux arabes avec un officier qui avait en charge l'administration d'une circonscription. Et donc, cet officier avait des pouvoirs répressifs. Et en 1844, le premier texte qui réglemente leur pouvoir répressif, c'est un texte de Bugeaud, et il dresse déjà une liste, une première liste. Alors, comment? Je vous avoue que je ne le sais pas. Je suppose, par ce qui remontait du terrain sur les difficultés, et il y a pas mal d'infractions, en fait, qui ont persisté jusqu'à ce qu'elle constitue une base inscrite dans la loi. Alors, c'est très compliqué tout ça, parce qu'en 1881, la liste n'est pas dans la loi, c'est un arrêté du gouverneur général. Mais bref, la première source, elle est là. Il devrait y avoir certainement une origine militaire. Moi, je trouve que le refus ou l'inexécution des services de patrouille ou de garde, ça sonne quand même très militaire. Et on souligne souvent, quand on s'intéresse aux pouvoirs répressifs qui sont donnés aux officiers de bureaux arabes, on souligne souvent que, à cette époque-là, enfin même évidemment encore aujourd'hui, les gradés ont des pouvoirs disciplinaires. Et que c'est aussi pour ça que ça s'appelle pouvoir disciplinaire. Hein. Ils exercent une discipline à l'encontre des soldats. Et on dit souvent aussi, quand on parle des violences des chefs de bureau arabes sur les Algériens, qu'à cette époque-là, envers les soldats punis au sein de l'armée, on avait aussi la main leste, et que la bastonnade envers la jeune recrue était chose courante. Voilà, donc il doit y avoir certainement une origine militaire. Je n'ai jamais fait ce travail, mais un juriste m'avait dit une fois que si on prenait les réglementations militaires de l'époque, on devrait trouver, alors pas cette liste-là, mais celle de 1844, il y a certainement des transferts. Je pense qu'il y a aussi des remontées du terrain. Donc il voilà. Et puis après, au fur et à mesure des années, la liste est adaptée. Alors adaptée dans quelles conditions, je ne sais pas, parce qu'à ma connaissance, entre 1844 jusqu'aux années 1870, il n'y a pas de nouvelle liste élaborée. Ensuite, ce qui s'est passé en 1871, c'est qu'on a eu un gouverneur général qui était opposé au pouvoir disciplinaire. C'était pratiqué de fait avant la loi, hein, faut toujours le répéter. Bon, parce qu'il y avait l'administration des bureaux arabes. Progressivement, on développe le territoire civil, c'est-à-dire qu'on retire aux militaires l'administration du pays et on installe une administration civile. Mais les agents de l'administration civile récupèrent les pouvoirs des chefs de bureaux arabes, en gros. Je vais très vite, mais à la louche. Hein. Ils récupèrent des pouvoirs répressifs. Tout cela sans qu'on ait vraiment de texte. Et donc, en 1871, il y a un gouverneur général qui arrive et qui dit « La République, c'est le droit commun pour tout le monde. Je ne veux pas de pouvoir disciplinaire. Je vais... » Alors, il forme une commission et puis ils disent que vous allez réfléchir à une adaptation du code pénal. Et donc, cette commission a travaillé à l'élaboration d'une liste d'infractions qu'on pourrait inscrire dans le code pénal. Et donc ce seraient des infractions qui du coup répondraient aux besoins répressifs des agents de l'autorité coloniale sur le terrain, mais ce ne seraient pas des pouvoirs disciplinaires, puisque si c'est dans le code pénal, ça veut dire que c'est un juge. Hein, il instruit, il y a une défense, etc. Et puis ça ne fonctionne pas. Et c'est comme ça qu'on arrive à la loi de 1881. Et donc la liste, il y a la première source de 1844, mais il y a beaucoup de réflexions dans les années 1870. Avec cette première commission qui avorte, il y a un projet d'annexe au code pénal de nouvelles infractions spécifiques aux indigènes d'Algérie. Et puis, finalement, on a diverses réglementations et on arrive en 1881 à la loi avec la liste qui a été établie au gouvernement général. Donc, certainement sortie de tout ce travail de réflexion des années 1870. Voilà. Une dernière chose, si je peux me permettre. J'ai essayé dans mon travail, c'est très difficile, mais de faire la part de ce qui peut sembler spécifiquement colonial ou pas. Parce que quand même, quand je pense au passeport, au permis de voyage, à la carte de sûreté ou livret d'ouvrier, l'infraction numéro 13, dans la société, je vous l'expliquerai la 9 si vous voulez, c'est juste classique du contrôle de la circulation dans la France du 19e. Hein. Donc, c'est vraiment la question de la spécificité du colonial, elle est très intéressante. Parce qu'il y a du spécifique, mais aussi, moi, une chose qui me dérange beaucoup, même si vous l'aurez compris, je suis quand même un petit peu critique sur tout ce régime, hein, c'est aussi le regard anachronique. Hein, parce que les formes de répression dans la France du 19e, en particulier avant la Troisième République, ne sont pas du tout celles qu'on connaît aujourd'hui. Et il me semble, ça c'est une chose qui émerge dans l'historiographie, qu'on peut finalement, j'allais dire, verser les sujets coloniaux au registre de cette vaste catégorie des indésirables que sont aussi en métropole les vagabonds, les prostituées, les étrangers, les tziganes, etc. Il y a certainement des porosités, je dirais, entre les différentes mesures de toutes ces populations vues comme indésirables. Par exemple, excusez-moi d'être... Après, j'arrête. Quand je vous disais que l'assignation à résidence, donc est une des formes de l'internement administratif, elle s'appelle la mise en surveillance spéciale. En fait, au XIXe siècle, c'était ce qu'on appelait la surveillance de haute police qu'on imposait aux forçats. C'est ce qui contraint Jean Valjean à ne pas s'installer où il veut, par exemple. Et la surveillance de haute police, on l'appelle aussi surveillance spéciale. Et en Algérie, on pratique ça. Voilà. Je vous en prie.
Donc la prochaine conférence, c'est toi qui as la liste, Yann. La prochaine conférence, c'est...